un disque inclassable, difficile, tourmenté, bâclé, et pourtant. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2024, et il y a 30 ans, sortait le premier album de John Frusciante, Neandertal AIDS and Usually Just a T-shirt. John Frusciante rejoint les Red Hot Chili Peppers en 1988, prenant la suite d'Ilan Slovak, guitariste originel du groupe et dont l'addiction à l'héroïne l'emportera à seulement 25 ans. Le recrutement de Frusciante est assez logique, presque naturel, puisque c'est un fervent suiveur de la formation depuis bien longtemps, à une époque où son succès ne dépasse guère les frontières californiennes. Il était également très proche de Slovak, dont il admirait le jeu de guitare funk débridé, et il va donc intégrer le groupe dont il est fan, dans l'optique d'enregistrer leur quatrième album, Mother's Milk, en 1989. On a tendance à l'oublier, mais Frusciante est âgé de 19 ans en 1989 lors de l'enregistrement et de la sortie de Mother's Milk. L'album est très prometteur musicalement, mais il met surtout en lumière l'implication de Frusciante dans les composants du groupe. C'est pourtant un gamin, là où Flea et compagnie sont de jeunes adultes, officiellement, et si sa maturité de musicien est bien réelle et presque innée, difficile de dire s'il a le caractère et l'aplomb nécessaire pour assumer tous les aspects propres à un guitariste d'un groupe de rock en pleine ascension. Car parmi ces aspects, on trouve le fameux mantra « sexe, drogue et rock'n'roll » et Frusciante compte bien obtenir sa part du gâteau à ce sujet, lui qui déclinera l'invitation à rejoindre le groupe de Frank Zappa pour la simple raison que ce dernier refuse toute consommation de drogue de la part de ses musiciens. Mais avant de parler de drogue et de dépendance, il y a la musique et un statut à acquérir. Ce statut, c'est en 1991 que la bande Akidis & Co. va l'obtenir. Blood, Sugar, Sex, Magic, pour l'anecdote sortie le même jour que Nevermind, leur cinquième album est un carton planétaire, de par son tube multidiffusé Under the Bridge, mais aussi grâce aux 16 autres titres, véritable machine funk rock d'une efficacité redoutable. Ce disque, devenu culte pour plein de raisons, raison que je vous conseille de découvrir dans l'excellent documentaire Funky Monks, dispo sur YouTube, est aussi en filigrane l'avènement d'un guitariste, d'un musicien de génie, en la personne de John Frusciante. À 21 ans, il est derrière 80% des compositions de l'album. C'est lui qui soumet des idées sur la structure des morceaux, qui les met en place, apportant une profondeur et une épaisseur jusque-là inédites dans la musique des Californiens. Musicalement et guitaristiquement, tout le disque dégouline de son génie, entre riffs funky saccadés et arabesques hendrixiennes. Les autres membres du groupe et l'équipe technique sont tellement bluffés par autant de talent et si précoce qu'ils s'extasient devant ses performances, comme on peut l'entendre à la fin du solo de guitare de If You Have to Ask. Artistiquement, Blood Sugar Sex Magic est une réussite totale, commercialement aussi. Le groupe part faire la promo de l'album aux quatre coins du monde, entre concerts pleins à craquer et interviews pour la presse spécialisée. Les salles sont de plus en plus grandes, et les diverses sollicitations aussi, et cela va de pair avec la pression médiatique qui croît aussi vite que leur vente de disques. C'est sans doute à ce moment-là que Frusciante se réfugie un peu plus dans la drogue, et entre ce début d'addiction et le rythme très soutenu des tournées, le musicien commence à se laisser aller à une certaine parano, qui verra son comportement changer au fil des concerts, laissant apparaître des tensions nouvelles au sein du groupe. Après la parano, Frusciante devient imprévisible sur scène, allant même jusqu'à saboter certaines parties de guitare, comme sur leur tristement célèbre prestation au Saturday Night Live, où l'on voit bien que le groupe est en pleine déliquescence. The city of angels. ce qui doit arriver arrive, John Frusciante, ne supportant plus tout ce cirque au sens littéral, quitte le groupe en 92 en expliquant aux autres
« Je dois partir, je dois rentrer chez moi, je ne peux plus. Je vais mourir si je quitte pas le groupe maintenant. »
John Frusciante va alors se consacrer presque exclusivement à la deuxième partie du mantra évoqué plus haut, à savoir l'usage de drogue. Il devient héroïnomane très rapidement, tombe en lourde dépression et pour apaiser son mal-être, sombre encore un peu plus dans les bas-fonds de la drogue, ajoutant à l'héroïne des lignes de cocaïne. Après la dépression, il tombe dans l'automutilation, s'inflige de sévères blessures au bras, déjà pas épargné par les piqûres d'héroïne. S'il est resté un peu en contact avec Flea, il se marginalise dangereusement et devient une menace pour lui comme pour les autres. Il reste proche également de l'acteur River Phoenix, frère de Joaquin, qui mourra malheureusement d'overdose fin 1993. Le coup est dur, presque fatal, Frusciante s'enfonce encore un peu plus dans ses addictions. La jeune rockstar de 91 n'est plus, il est devenu un junkie notoire qui a dilapidé l'essentiel de sa fortune en drogue et qui vit quasi reclus dans sa maison de Los Angeles, du moins dans le taudis qui lui sert de maison. C'est dans ces conditions sordides et dans cette torpeur que John Frusciante va tant bien que mal enregistrer de la musique, poussé par ses proches qui n'ont pas encore fait demi-tour face à autant de décrépitude et de déchéance. Nous sommes en 1994 lorsque sort Neandra Lades and Usually Just a T-shirt, et si commercialement c'est un échec cuisant, à peine 40 000 exemplaires vendus, il faut s'arrêter sur ce disque qui vaut bien plus qu'un simple album de Junkie sous Speed et qui a valeur de début d'histoire, imparfaite certes, mais qui a le mérite d'exister. C'est la première graine d'un jardin touffu, une graine qui sent le chagrin et le soufre, mais sur laquelle il faut s'arrêter pour en comprendre l'évolution. Celles et ceux qui ne jurent que par les hymnes entêtants des Red Hot Chili Peppers peuvent passer leur chemin. Le constat est simple et net, la musique, avec des gros guillemets de ce Neandra Lades and Usually Just a T-shirt, est ce qu'il existe de plus opposé à toute forme de musique enthousiaste et sautillante. Ici, point de tube radiophonique, pas l'ombre d'un riff crunchy à se mettre sous les dents, pas une rythmique à reproduire sur une mauvaise Stratocaster. Et pour cause, l'album est quasi entièrement acoustique, et encore, le mot acoustique est bien trop laudatif tant la production du disque est bancale, au mieux bâclée, et plus certainement inexistante. Alors pourquoi parler de ce disque ? Eh bien parce que c'est un pan de l'histoire de Frusciante, de l'histoire du rock aussi quelque part, impossible à occulter et dont il faut connaître et comprendre le contexte pour ne pas rebrousser chemin dès la première piste du moindre album de John Frusciante. Ce Neandra Lades and Usually Just a T-shirt est le disque d'un artiste qui tombe, avec ses peurs, ses faiblesses, et qui possède cette dose de voyeurisme inconscient tant on ne reconnaît pas celui qui nous a fait chavirer et chalouper sur des hymnes tels que Give It Away ou Suck My Kiss. Ne cherchons pas de cohérence dans l'album, il n'y en a pas. La seule constante, c'est celle d'un homme défoncé qui part à la dérive. C'est aussi désarmant que totalement dénué d'harmonie, du moins en apparence. Après un As Can Be sépulcral qui semble enregistré sur un mauvais magnétophone, vient la perle de cet album, My Smile is a Rifle, où l'on retrouve un semblant de jeu de guitare presque construit. La ligne de guitare est un peu plus soignée, déchirante, les arpèges semblent bâillonner et tentent désespérément d'appeler au secours. John Frusciante ne chante pas, au mieux il gémit, et ce sera ainsi sur presque tout l'album. Ça n'est plus un chant, le plus souvent c'est un cri strident, bouleversant. L'absence de tout début d'arrangement nous fait nous sentir dans la même pièce que lui, entre seringues et mégots de clope écrasés sur le sol, et surtout, par-delà le mal-être, cette absence de toute volonté de se sortir de là, qui peut parfois rendre l'écoute du disque difficile, douloureuse, voire malaisante. Une fois le contexte et ses précautions énoncées, restent quand même des fragments de chansons, avec quelques moments de grâce, comme les tricotements de guitare sur Head, par exemple. « L'avantage d'être en roue libre totale, c'est le non-contrôle absolu et de se laisser aller à des expérimentations, que ce soit les tentatives d'ambiance celtes sur Big Takeover, les essais d'harmonie vocale sur Mascara ou le début de refrain un peu catchy de Been Insane, littéralement noyé sous les miaulements crescendés. Toute la première moitié du disque propose des compositions « classiques » entre guillemets, à écouter en connaissance des causes évoquées bien sûr, mais avec une structure couplet-refrain traditionnelle, toute proportion gardée évidemment, la base de la plupart d'entre elles ayant été composée avant que Frusciante ne quitte le groupe, là où la seconde partie de l'album, plus électrique, va encore plus loin dans l'expérimentation et parfois difficilement audible entre voix déformées et cris d'enfant. Sur cette deuxième partie, Frusciante ne prend même pas la peine de nommer ses compositions. Neandertal Aids est un disque fou, au sens pathologique du terme, une folie presque baudelairienne, la folie d'un homme sur le point de tomber dans un précipice sans fin. Une folie qui était créatrice lorsqu'il était cadré, bordé et entouré, une folie qui s'avère dangereuse pour lui, qui est désormais libre, libéré de toute contrainte commerciale et artistique. Un disque difficile à aborder tant il est inclassable, on peut parfois penser à Nick Drake dans la démarche, dans le côté folk, dépressif et lugubre, mais il est surtout un véritable témoignage d'un homme en perdition. Il le sait parfaitement, il avoue sans honte avoir sorti ce disque pour pouvoir s'acheter de la dope, et s'il le fera retirer des bacs lors de son premier retour au sein du groupe en 1998, il avouera paradoxalement ne rien regretter sur son passé de junkie. Ce qui reste difficile à entendre, à plus forte raison lorsqu'on sait que sa descente aux enfers ne s'arrête malheureusement pas avec la sortie de ce premier album. La spirale infernale continuera lors de la sortie en 1997 de Smile from the Streets You Hold, deuxième album agonisant, véritable farce pour acheter encore plus de drogue et disque malheureusement ou heureusement introuvable aujourd'hui en dehors de YouTube. L'histoire aurait pu être juste sordide si elle s'était arrêtée là, avec une ex-rockstar promise à une mort certaine et proche. Elle sera heureusement plus épanouie par la suite, humainement et musicalement, grâce à une suite d'albums bien plus recommandables, mais une fois de plus, pour qui veut comprendre son histoire, le passage par ce Neandertal Aids and Usually Just a T-shirt est obligatoire et constitue presque un rite initiatique quant à l'œuvre de John Frusciante. Cet album est sorti donc le 8 mars 1994, la chronique sur albumrock.net est parue le 9 janvier 2020. Retrouvez tous les liens utiles dans les notes de l'épisode. Bonne écoute et à bientôt !